J'aimerais parler ce soir sur connecter avec le ciel. Dans 2 Rois, chapitre 6, au verset 8, il est écrit « Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité, il appela ses serviteurs et dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit « Personne au roi, mon seigneur, mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire « Voici, il est à Dothan. » Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et ils enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Amen. Nous, en tant que chrétiens, nous avons bien les deux pieds sur la terre, mais notre vision, notre regard, il est porté vers le ciel. Et notre esprit doit être connecté avec le ciel. Car si notre esprit est connecté avec la terre, nous n'allons pas percevoir les choses de Dieu. C'est ce qui est enseigné dans le Nouveau Testament, lorsqu'il est dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde ». Car quand un chrétien est centré sur les choses de la terre, alors il devient inutilisable dans le royaume de Dieu, qui est un royaume céleste. Et c'est pourquoi nous devons faire cet effort de détacher notre regard des choses de la terre pour le tourner vers le ciel d'où nous recevons la vision, d'où nous recevons l'esprit, d'où nous recevons le renouvellement. Et si nous ne faisons pas cet exercice quotidiennement, et bien petit à petit, ça fait comme des masses. Il est dit qu'il a abandonné Paul par amour pour le siècle présent, c'est-à-dire les choses de cette terre, pour les choses de ce monde. Et c'est ainsi que nous devons vivre. Il y a un auteur chinois qui s'appelle le frère Yun qui a écrit un livre dont j'aime bien le titre. Le titre de son livre, c'est « Le citoyen du ciel ». Le citoyen du ciel. Et il raconte son expérience, comment il a pu sortir d'une prison en Chine, alors qu'il était les deux pieds brisés. Il y a eu un véritable miracle. Et c'est une très très belle et très forte expérience qui nous montre que Dieu agit encore aujourd'hui, qu'il est capable de faire des miracles, même s'il y a des chrétiens prisonniers. Personne ne savait qu'il était dans cette prison, mais voilà, et Dieu l'a vu, et il a restauré ses jambes, et cet homme est sorti de la prison sans qu'aucun des gardiens en faction ne puisse le voir. Ils ne le voyaient même pas passer, leurs yeux étaient comme aveuglés, et c'est comme ça qu'il est sorti. Et pareil, comme il a pu sortir de Chine, il raconte son témoignage, qu'il a pu... Ils ne l'ont pas reconnu parce qu'il y avait des avis de recherche et il a pu prendre un avion et rejoindre l'Europe. Enfin, il y a eu un miracle aussi pour qu'on puisse avoir son témoignage parce que c'était à une époque où le pays était tellement fermé que c'était dans l'église souterraine. Alors, citoyen du ciel, pourquoi ce titre? Eh bien parce que c'est tiré de la parole de Dieu. Nous sommes citoyens des cieux. Notre appartenance, ce n'est pas d'abord, on dit qu'on est français, moi je suis pour ma part à la fois français et suisse, j'ai une double nationalité, j'ai un passeport suisse, mais j'ai une triple nationalité, parce que je suis aussi citoyen du ciel, et ma première nationalité, c'est céleste, c'est celle, j'appartiens à Jésus, que je sois en Suisse, que je sois en France. Alors vous voyez, pendant la Coupe du Monde, S'il y a un match entre la France et la Suisse, mon cœur est partagé entre les deux équipes. Et quoi qu'il arrive, je serai gagnant. Voilà. Je ne sais pas si la Suisse a été qualifiée cette année. Je me pose la question. Ah, voilà, on a des spécialistes. Voilà. Donc, le premier point, c'est la protection de Dieu. Car nous voyons là qu'il y a un roi qui est en guerre contre Israël. Et nous savons que derrière ce roi en guerre, c'est une image, ce roi de Syrie, mais il y a un autre roi, il y a un autre esprit qui est en guerre, c'est l'esprit de Satan. Satan qui est le prince des ténèbres, qui est le dieu de ce siècle, qui est celui qui agit dans les fils de la rébellion. Et Satan, il est en guerre contre qui ? Il est en guerre contre l'Église, contre le peuple de Dieu, contre les véritables croyants. Il y a un verset qui dit dans 1 Chronique 21:1 « Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. » Satan se leva contre Israël. De même, Satan se lève aujourd'hui contre l'Église. Et il va essayer de pousser l'un à faire une division, de pousser l'autre à faire de la calomnie, de pousser un troisième dans les péchés, dans la dépravation, dans l'idolâtrie, dans l'ivrognerie, dans toutes sortes de séductions. En croyant être libres, ils sont devenus esclaves. Il est appelé le prince de la puissance de l'air parce qu'il contamine l'air environnant. C'est pourquoi il nous faut prier pour que le Seigneur purifie ce lieu, purifie là où nous sommes, pour que cet air ne soit pas sous l'influence du prince de la puissance de l'air. Il agit aussi, dit la Bible, comme un lion rugissant. Ah, un lion rugissant, ça fait frémir. Et la plus... toujours moi, quand j'ai vu des lions, c'était derrière des barreaux dans les eaux. Mais j'imagine même pas rencontrer un lion dans la rue ou dans une forêt. Comment réagir ? On serait pris de panique, on chercherait à se sauver et peut-être qu'on serait même paralysé par la peur. Tellement un lion, c'est terrifiant, c'est méchant. Et la mâchoire du lion est tellement puissante qu'elle peut briser les os en même temps qu'elle arrache la chair. C'est vraiment une mâchoire, un broyeur complet. Et donc l'image que Pierre prend, c'est celle d'un lion rugissant. C'est pas un lion, vous savez, il y a des lions, on aime bien les caresser. Ça c'est dans les dessins animés, c'est dans les images populaires. Mais là c'est un lion rugissant, c'est un lion violent, c'est un lion méchant, c'est un lion qui veut dévorer. Et ça peut détruire la peur. J'entendais cette histoire vraie, malheureusement, qui est arrivée dans une école où ils faisaient du bizutage et ils ont voulu faire peur à un étudiant. Et ses camarades l'ont attaché à des voies ferrées de la SNCF. N'importe quoi. Et ils lui ont bandé les yeux. C'est grave ce qu'ils ont fait. Et ben. En fait, il l'avait mis sur une voie sécurisée. Mais le jeune, il ne le savait pas. Et quand il a entendu le train, il a eu tellement peur, il est mort de peur. Il est mort de peur. Et ça a été terrible, cette histoire. Mais pour vous dire que la peur, ça peut vous tuer. Alors qu'il n'avait aucun danger, en réalité. Mais il ne le savait pas. Il croyait qu'il allait mourir. Il croyait qu'il allait finir sa vie broyé par le train. Un phénomène que nous avons au fond de nous, c'est que la peur non seulement nous paralyse, mais elle peut nous tuer, nous rendre inopérants. Et puis le diable est appelé le dieu de ce monde. Pourquoi le dieu ? Parce que le diable, depuis toujours, il cherche l'adoration. Enfin, depuis qu'il a voulu se faire l'égal de Dieu. Mais c'est écrit le dieu de ce monde avec un D minuscule. C'est pas le grand dieu, mais c'est le dieu, le faux dieu, le petit dieu. Et pourtant, quand il a vu Jésus, il a dit « Je te donnerai toutes les richesses de ce monde si tu te prosternes. » Qu'est-ce qu'il voulait ? Qu'est-ce qu'il voulait recevoir quand il voulait voir Jésus se prosterner devant lui ? Il voulait recevoir l'hommage, il voulait recevoir l'adoration, il voulait recevoir la gloire qui revient à Dieu seul. C'est pourquoi Dieu a rejeté cette pensée. Il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. » Voilà comment nous devons répondre. Au Dieu de ce siècle, nous devons répondre par des convictions appuyé sur la parole de Dieu. Et c'est comme ça que Satan le laissa, jusqu'à une occasion plus favorable, dit la parole de Dieu. Satan n'a aucune pitié, c'est notre ennemi. Jésus dit que, clairement qu'il ne vient, il le compare à un voleur, il ne vient que pour égorger, voler et détruire. Il résume en quelques mots l'activité de Satan et de ses démons dans ce monde. C'est-à-dire qu'il n'a aucune pitié pour personne, il veut la perdition de tout le monde, même des croyants qui ont été rachetés, il va chercher à les faire retourner en arrière. Toutefois, si nous sommes en Christ, nous n'avons rien à craindre, car notre vie, Jésus dit, nul ne pourra les arracher de ma main, dans la mesure où nous restons dans la main de Dieu. Et c'est là tout la complexité de la vie chrétienne, car certains, avec le temps, les mois, les années, eh bien, laissent entrer une routine ou un fléchissement et petit à petit quittent la main du Seigneur. Mais vous savez qu'une brebis qui n'est pas avec son berger, comment elle va se défendre? Une brebis qui n'est pas protégée par le berger, elle est condamnée à mort, elle est condamnée à être détruite ou dévorée par des prédateurs. Parce que la brebis, ce n'est pas un prédateur. La brebis, c'est un animal qui a besoin du berger pour le protéger. Nul ne les ravira de ma main puissante, dit le Seigneur. Mais il arrive que certains font les brebis sauvages, j'allais dire, qui font l'école buissonnière. Ils vont chercher à gauche, à droite, en dehors des verts pâturages, ils vont chercher l'aventure, loin du Seigneur. Mais c'est eux qui s'éloignent d'eux-mêmes, et c'est eux qui se mettent en difficulté. Jésus dit de ce voleur ou de Satan, il n'a rien en moi. Il n'y a pas de communion, il n'y a pas de pensée entre Satan et Dieu. C'est une véritable opposition frontale sans merci. D'ailleurs, quand Jésus venait quelque part, qu'est-ce qui se passait? Quand Jésus prêchait l'évangile du royaume, il y avait des réactions, vous l'avez noté dans les évangiles. Il y avait des mauvais esprits qui se manifestaient. Pourquoi? Parce qu'ils ne supportaient pas la présence du Fils de Dieu. Jésus a une telle présence, un tel amour, une telle sainteté que ça, les esprits sont impurs, donc ils n'aiment pas la sainteté, ils n'aiment pas la présence de Jésus, la présence de Dieu, alors ils s'agitent, et c'est là qu'il les chassait et qu'il faisait ses délivrances. Mais c'est un signe que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Donc nous avons la protection de Dieu parce que nous avons un roi qui est en guerre contre nous. Ce roi, pour nous, c'est Satan, ce n'est pas le roi de Syrie. Les plans de l'ennemi sont dévoilés parce que le roi de Syrie, dans le secret de sa chambre, il commençait à faire les plans en disant « Nous irons dans telle ville pour attaquer, puis nous irons dans telle ville. » Sauf que l'Esprit de Dieu révélait au prophète Élisée ce qui était dit dans la chambre du roi. Et certains feront des plans contre vous, ils essaieront de vous faire tomber ou de prendre votre place. Regardez par exemple Daniel, les difficultés qu'il a eues avec ses collègues. Daniel qui avait toute la sagesse de Dieu, qui avait l'approbation du roi. Mais les collègues ont vu chez lui une sorte de fanatisme pour son Dieu et ils ont voulu le destituer par jalousie parce qu'ils voulaient évidemment prendre sa place. Et ils sont proposés au roi, mais fais un édit au roi que personne ne prie jamais aucun autre Dieu que toi. Ils savaient très bien que Daniel, il priait le Dieu d'Israël et que ça allait être un piège pour lui. Et ils avaient préparé une fosse au lion pour que celui qui n'obéirait pas à ce décret soit jeté dans la fosse au lion et dévoré par les lions. C'est méchant. Comme quoi le cœur de l'homme est tortueux, il est méchant. Il y a des gens méchants, vous leur avez jamais fait de mal, ils sont méchants envers vous. Regardez par exemple Daniel, comme il a été bon envers tous ses collaborateurs. Eh bien, ils ont été méchants derrière son dos, ils ont fait ce plan pour le détruire. Daniel ne le savait pas, mais quand il a entendu l'édit du roi, il a compris. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert sa fenêtre comme il faisait chaque jour et il priait son Dieu comme s'il n'y avait pas eu cet édit. Et finalement, il a été dénoncé. Le roi ne pouvait pas empêcher son ordre d'être exécuté. Donc, il a fait jeter Daniel à contre-cœur dans la fosse au lion. Toute la nuit, d'ailleurs, le roi n'en a pas dormi. Il est resté à jeun. Il pensait à Daniel et pourquoi il regrettait, en fait, sa décision. Mais dès le matin arrivé, il est allé se renseigner. « Daniel, le Dieu que tu sers a-t-il pu te délivrer de la fosse aux lions ? Eh oui, il entend la voix de Daniel, eh oui. Mon Dieu a envoyé son ange et il a fermé la gueule des lions. Mais Daniel ne pouvait rien faire. Il était en quelque sorte l'objet d'une cabale et il s'est retrouvé, malgré lui, jeté dans la fosse aux lions. Notez que les lions ne lui ont fait aucun mal. Non pas parce que c'était Daniel en lui-même, Daniel, ni nous, ni personne humain ne peut faire peur à un lion, mais c'était l'ange de l'Éternel qui a fermé la gueule des lions. Là, Daniel, il devait rester comme ça toute la nuit à attendre, en priant pour que l'ange de l'Éternel garde bien la gueule fermée des lions pendant toute la nuit, mais lui-même, il ne pouvait rien faire si ce n'est de prier et de s'attendre à la grâce de Dieu. Notez comment se termine l'histoire. Daniel est ressorti, honoré, et il a repris sa position et son service qu'il avait avant. Tandis que ceux qui avaient fait ce plan pour le détruire, le roi les a fait jeter dans la fosse aux lions. Et là, les lions n'ont pas eu la gueule fermée. La Bible dit qu'ils ont été dévorés. Et ceux qui avaient tendu un piège sont tombés eux-mêmes dedans. Donc ne vous inquiétez pas, frères et sœurs, il y en aura toujours des gens comme ça, des collègues qui se lèveront pour faire des plans derrière vous, mais si l'Éternel est avec vous, même combien même vous serez jeté dedans, eh bien il vous en sortira, et de toute manière c'est lui qui aura le dernier mot. La Bible dit au psaume 9:17, l'Éternel se montre, il fait justice, il enlace le méchant dans les œuvres de ses mains. Il enlace le méchant. Il avait fait un piège, eh bien il se retrouve lui-même enlacé dans son propre piège. Paul connaît le but du malin, et nous devons le savoir, car le but du malin, c'est de prendre l'avantage sur nous. 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 10 à 11. « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. » C'est Paul qui parle. « Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Ça, c'est Paul qui précise que Satan voudrait bien prendre l'avantage sur nous, mais non, il ne faut pas le laisser. Mais que se passe-t-il si un chrétien baisse les bras, si un chrétien ne prie pas, si un chrétien n'entretient pas sa vie avec la louange et l'adoration? Eh bien, c'est Satan qui va prendre l'avantage sur lui, nécessairement. Donc c'est pour ça que nous faut veiller et prier constamment. Nous n'ignorons pas ses desseins. Eh bien, il va prendre l'avantage quand les péchés ne sont pas confessés, quand il y a une double vie, quand le chrétien vient le dimanche et puis que le samedi soir il va dans les boîtes de nuit, ou qu'il va dans l'impudicité, dans les choses de ce monde, et qu'il se repaît de cela. Eh bien, il est lui-même dans le compromis, et cela fait que Satan va prendre l'avantage sur lui. Ah, il pourra continuer à chanter, il pourra continuer à donner l'apparence de quelqu'un qui est encore chrétien, mais vous savez, c'est un petit peu comme le poulet dont on a coupé la tête. Il continue à faire encore quelques pas, mais en réalité, une fois que la tête est coupée, il ne va pas vivre longtemps encore. Et le corps finit par s'arrêter net et mort. Mais c'est pareil. C'est le chrétien qui a été coupé, retranché, dit même Jésus. Le sarment qui n'a pas porté de fruits a été retranché. Eh bien, il ne faudra pas longtemps que ce sarment devienne tout sec et mort, et il va finir par être jeté au feu. C'est pourquoi il nous faut nous repentir, nous ressaisir et ne pas laisser à Satan prendre l'avantage sur nous. Regardez par exemple l'histoire éloquente de Judas, qui était pourtant un disciple que Jésus a choisi, dont il est dit dans les Actes qu'il avait le même ministère que chacun des autres apôtres. Il a été prêché au nom de Jésus, il a fait des miracles au nom de Jésus. Et pourtant, dans sa vie de disciple, il commençait à voler l'amour de l'argent, la racine de tous les maux. Il commençait à prendre de l'argent dans la caisse. Et personne ne le savait, ça a été découvert par la suite. Et petit à petit, eh bien, ça a permis que Satan mette dans son esprit la pensée de livrer Jésus. Car quand on pêche d'une manière cachée, d'une manière en pensant que Dieu ne voit pas, eh bien, Satan prend l'avantage. Et la pensée de Satan, ce n'est pas la pensée de Dieu qui l'inspire. C'est Satan qui lui dit, mais pourquoi tu ne livrerais pas Jésus? Tu vas livrer Jésus. Va livrer Jésus. Et ça, petit à petit, s'est rentré dans son esprit, au sorte que, juste si vous lisez dans Jean 13, il est dit dans ce chapitre que Satan entra dans Judas. C'est le seul, seul être humain qu'on voit dans la Bible où Satan est entré directement pour le posséder. Judas a ouvert une porte en volant d'une manière consciente, en ne confessant pas son péché. Il a persévéré en ouvrant son esprit à la pensée du malin de livrer Jésus. Ça n'était pas loin, la brèche était déjà ouverte, c'est comme s'il ouvrait son cœur pour que Satan puisse y faire sa demeure et le manipuler afin qu'il aille livrer le Fils de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi Paul dit précisément « ne donnez pas accès au diable ». Ça veut dire qu'un chrétien doit veiller sur la porte de son âme. C'est quand même un ordre important, car le diable, il aimerait bien en attraper quelques-uns. Il y a un récit sur un Esquimau qui avait trouvé une méthode infaillible pour attraper les loups. Il sait que les loups sont très attirés par l'odeur du sang, par le sang des animaux qu'il veut dévorer. Alors il avait pris son couteau et il avait mis du sang donc des animaux que les loups aiment beaucoup, et il avait mis une couche de glace par-dessus, puis à nouveau du sang, puis une couche de glace, puis du sang, puis une couche de glace, de sorte que le couteau était recouvert de environ 5 cm de glace, un petit peu comme un Esquimau. Et puis ce couteau, il l'avait planté dans un morceau de bois très fermement attaché, et il l'avait laissé dans le sol. Et le soir venu, le loup arrive. Et le loup, attiré par... il ressent le sang, il a un odorat hyper développé. Il se lèche les babines et il commence à lécher, puis c'est très bon. Alors le sang, ça excite ses sens, et il commence à lécher. Si bien qu'à un moment donné, il lèche frénétiquement et il ne se rend pas compte qu'il est en train de lécher son propre sang, parce que sa langue petit à petit est coupée. Elle est coupée par le couteau et il est en train de se... tuer lui-même en fait. Il est en train de se tuer lui-même en léchant ce qu'il croit être bon pour lui. Et le lendemain matin, le loup est là étendu mort dans son propre sang. C'est une méthode de chasse, mais c'est la même méthode qu'utilise le diable en fait, avec les chrétiens faibles, en leur donnant le péché qu'ils affectionnent le plus, dans lequel le chrétien va s'attacher de sorte qu'il va se retrouver lié, et s'il ne se repent pas, et s'il continue frénétiquement dans ce péché, eh bien il va finir par mourir dans son péché, et ce sera une catastrophe pour lui. Mais ça, c'est ces méthodes de chasse, comme par exemple tendre des pièges, ce sont celles du malin. Il va tendre un piège en attendant tranquillement que la proie arrive, et il fera ensuite tout ce qui est nécessaire pour la rendre prisonnière. Ensuite, le deuxième élément, c'est les révélations de Dieu. Car Dieu révèle à son serviteur Élisée tout ce que le roi dit dans sa chambre. Il est dit dans 1 Corinthiens 2, 9 et 10, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Encore aujourd'hui, Dieu nous donne des révélations par l'Esprit. Même à un enfant comme Samuel, par exemple, lorsqu'il était au temple avec le sacrificateur Élie. Élie qui, dans sa vieillesse, s'était tellement endurci qu'il n'entendait plus la voix de Dieu. Mais Samuel, qui est un jeune enfant, il entend « Samuel, Samuel ». Il croit que c'est son maître. Et en fait, c'est Dieu qui commence à parler à Samuel. Samuel va être le nouveau prophète. Et Élie ne va faire que décliner. En laissant ses fils pécher, il n'a pas pris sa responsabilité de sacrificateur. Samuel est un enfant, il entend la voix de Dieu. Et c'est lui, si vous lisez ce texte, c'est ce jeune enfant qui va annoncer à Élie la sanction qui va tomber sur lui et sa famille. Alors qu'il n'est qu'un enfant, mais il entend la voix de Dieu. Pierre, par exemple, entend la voix de Dieu lorsqu'il voit cette nappe avec ses animaux. Et que Dieu lui dit, ce que j'ai déclaré pur, ne le déclare pas comme impur. Et il comprend que maintenant la grâce est pour les païens, parce que lui il était juif, et il croyait qu'il n'y avait que les juifs qui avaient accès à l'église. Paul a entendu les voix célestes lorsqu'il est monté au troisième ciel, c'est-à-dire au paradis, Et il dit qu'il a entendu là des choses qu'il n'est pas possible d'exprimer avec des mots humains. Il a entendu les sons célestes, il a entendu les anges, il a entendu le Seigneur se manifester. Quel moment glorieux. Ce sont des révélations. Et c'était tellement glorieux que Dieu lui a mis comme une écharde dans la chair un ange de Satan qui venait le souffleter pour l'empêcher de s'enorgueillir. Car si il n'avait pas eu cela, tellement c'était glorieux qu'il aurait pu dévier l'apôtre Paul. Vous voyez, comme quoi Dieu permet aussi de nous maintenir dans l'humilité. Un troisième élément, c'est la vision spirituelle d'Élisée. Car l'ennemi déploie toujours une grande puissance pour nous impressionner. Il y a les chars et les chevaux, une forte troupe au verset 14. Ils arrivent de nuit. Et oui, l'ennemi, il agit la nuit. Il est le prince des ténèbres. Il aime le monde de la nuit. C'est là qu'il fait son œuvre, dans l'obscurité. Personne ne le sait, personne ne le voit. Et puis le matin, vous voyez, c'est couvert des chars et des chevaux de l'ennemi. Sa force à lui est dans la démonstration de cette puissance. Mais regardez le psaume 20, verset 8. Ceux qui s'appuient sur leur char, ceux-ci s'appuient sur leur char, ceux-là sur leurs chevaux, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Voilà, notre victoire n'est pas dans le nombre des chars, dans le nombre des chevaux, ça c'est la puissance de l'ennemi, elle est dans le nom de l'Éternel des armées. Alors, l'ennemi aime agir la nuit. Jésus l'explique quand il prend le semeur, qui dit que, alors qu'il y avait de la bonne semence dans un champ, pendant la nuit, il y a un semeur d'ivraie qui est venu et qui a semé du mauvais grain. La nuit, toujours la nuit, là où les gens dorment, là où on ne fait pas attention, là où on ne veille pas, là où on pense qu'on peut être tranquille. Non, lui, il ne sommeille pas, il agit 7 jours sur 7. 24 heures sur 24, vous voyez, c'est pas comme la SNCF, c'est un jour de grève, deux jours de grève et trois jours de travail. Non, c'est 7 jours sur 7. Il ne s'arrête jamais. Et quand c'est pas lui, il envoie des émissaires. Paul dit, la nuit est avancée, le jour est proche. Mais la nuit est avancée, ça veut dire qu'il y a quand même des ténèbres qui sont là. Et que derrière les ténèbres, il y a toujours quelque chose qui est plus puissant que les ténèbres, c'est la lumière. Car quand vous arrivez chez vous le soir et qu'il fait nuit, si vous allumez la lumière, les ténèbres sont immédiatement chassées. Eh bien, c'est pareil sur le plan spirituel. Dès que vous louez le Seigneur, dès que vous priez, les ténèbres ne supportent pas. Elles doivent partir, car Jésus, c'est la lumière du monde. Il apporte la lumière dans les vies, mais il fait fuir les ténèbres. La nuit, ce n'est pas la fin. La nuit, c'est un passage. Et derrière la nuit, il y a le jour qui va se lever. Le Seigneur, lui aussi, travaille la nuit, c'est-à-dire dans l'obscurité. Quand un grain de blé tombe en terre, il dit, sous la terre, dans la nuit, dans l'obscurité, là il reste seul, mais il va mourir, et de cette mort, il va jaillir la vie. Un grain va emporter 30, un autre 60, un autre 90, il va y avoir la vie qui va sortir de la terre. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, ça se fait la nuit, dans l'obscurité. Alors, la nuit, c'est vrai que le diable se manifeste, mais notre Dieu, il agit aussi la nuit. Regardez la réaction du serviteur d'Élisée qui, lui, est dans le doute. Et lorsqu'il voit ses chars et ses chevaux nombreux, la première pensée qu'il a, c'est « Nous sommes perdus, nous n'y arriverons jamais ». Voilà. Voilà le degré zéro de la foi, voilà comment est entouré Élisée, l'homme de Dieu, son serviteur, probablement, les commentateurs pensent que c'est Géasi ici, son serviteur est dans l'incrédulité, il ne manifeste pas la foi de son maître. Un jour, j'ai discuté avec une chrétienne qui me disait, oui, mais moi, je prie tous les jours pour que mon mari se convertisse. Mais je sais que cela n'arrivera jamais. Alors, une prière comme ça, effectivement, c'est comme si vous allumez un feu et vous jetez de l'eau par-dessus. Alors, à chaque fois, ça s'éteint. Hein. Si vous confessez en même temps, vous priez tous les jours, et en même temps, vous dites, ça n'arrivera pas, c'est... vous soufflez le chaud et le froid en même temps. Donc, ça, non. Au moins dites plutôt que... certainement ça va arriver, j'ai confiance que ça va arriver, je mets ma foi pour que ça arrive, même si vous ne le voyez pas s'arriver, mais ne dites pas cela n'arrivera jamais, parce que qui peut dire cela n'arrivera jamais? Est-ce qu'on aurait pu dire Ah, jamais Saul de Tarse, jamais cet homme, il ne se convertira. Il y en a plein qui auraient pu dire ça. Ben, c'était faux. C'était faux. Donc, Dieu peut tout changer en toutes circonstances. Et en fait, les promesses sont pour ceux qui croient. Et si vous ne croyez pas, si vous n'arrivez pas à croire, eh bien, comment voulez-vous vivre dans la foi? Alors, Thomas en est un bel exemple. Il est resté célèbre pour son incrédulité. Et il est pour nous un modèle à ne pas suivre, dans le sens où il n'a pas cru. Il a dit, si je ne vois pas, si je ne mets pas mes mains dans ses plaies, le Seigneur était apparu ressuscité, je ne croirai pas. Voilà le croyant qui confesse son incrédulité. Ça, c'est un paradoxe incroyable. Il mettait la foi dans son doute. Il disait, je ne croirai pas, je ne croirai pas, je ne croirai pas. Comment voulez-vous avancer avec des chrétiens qui ne croient pas? Un chrétien qui ne croit pas, il ne s'attendra à rien, il ne verra rien, sa vie sera piètre, il n'aura pas d'avancée, d'évolution. Pourquoi? Parce que les promesses, toutes les promesses contenues dans la parole sont pour ceux qui croient. Elles ne sont pas pour ceux qui ne croient pas, elles ne sont pas pour ceux qui doutent, elles ne sont pas pour ceux qui rejettent la puissance de Dieu, elles sont pour ceux qui croient. Il faut développer la foi et croire que Dieu peut tout faire. Parce que tout vous dira, c'est pas possible. Alors, que fait Élisée? Il prie pour que ses yeux s'ouvrent. Nos yeux sont fermés souvent. Il prie, ouvre ses yeux. Et nous, nos yeux, ils sont sur quoi? Ils sont sur peut-être le rapport médical qui indique que tout est négatif, tous les bilans sont négatifs. Aïe, aïe, aïe. Nos yeux sont sur les mauvaises nouvelles, un petit peu comme les yeux de ce serviteur sur les chars et les chevaux. Mais ouvre nos yeux afin que nous comprenions ta pensée, que nous comprenions ta parole, car derrière les chars et les chevaux, il y avait d'autres chars, il y avait d'autres chevaux, c'est ceux de l'Éternel des armées qui remplissaient toute la montagne. Ça, personne ne le voyait, sauf Élisée qui était dans la foi. Et c'est important de continuer à croire. La prière efficace, c'est celle-ci, c'est que nos yeux vont comme se fermer aux réalités terrestres, les chars, les chevaux là, du roi de Syrie, mais ils vont s'ouvrir aux réalités spirituelles. Et on va voir ce que les autres ne voient pas. Par exemple, en Pentagonie, la terre semble aride et sèche. On dirait, il n'y a rien qui pousse ici. C'est désert, c'est mort. Mais sous ce désert, il y a des grands gisements de pétrole qui permettent de produire de l'énergie. Ça ne se voit pas en surface, mais c'est dessous. Et avec nos yeux humains, on dira, ici, il n'y a rien à en tirer, c'est un sol mort, on ne peut rien en faire. Mais si on pouvait voir dessous, on verrait qu'il y a du potentiel, qu'il y a de l'énergie, hein, avec ce pétrole on va faire de l'énergie qui va pouvoir faire des choses et faire bouger les choses. Alors nous avons souvent une vision très déformée, et cela, nous avons besoin d'en être délivrés. Jésus nous dit, mais pourquoi vois-tu la paille? Tu vois la paille dans l'œil de ton frère, c'est-à-dire tu le juges facilement, tu es toujours à critiquer, à regarder l'un, à regarder l'autre, et tu vois pas toi ton propre péché, ta propre poutre, et tu es aveuglé. Et c'est souvent notre difficulté, notre œil est souvent une occasion de chute. J'aime bien cette parole à l'église de Laodicée, quand Jésus dit « Je te conseille d'acheter de moi un collyre pour oindre tes yeux afin que tu vois ». C'est une église qui était tombée dans l'aveuglement. Et il n'y a rien de pire pour un chrétien que d'être aveugle. Alors il ne voit plus la gloire de Dieu, il ne voit plus son frère, il commence à se plaindre, il ne comprend pas que c'est la famille, il est irrité. Et après il est jaloux, après il lui en veut, parce qu'il ne lui a pas dit ceci, ou il ne lui a pas dit bonjour, ou alors il n'a pas fait le geste qu'il fallait faire, etc. Mais tout ça, c'est parce qu'il y a un problème dans notre cœur qui n'est pas réglé, que Dieu nous aide. On va prier quelques instants, on est dans cette pensée du message d'être connecté avec le ciel. Ne vous attachez pas aux choses de la terre, attachez-vous aux choses d'en haut, dit Pierre. Dieu nous donne la protection. Il est le Dieu de la révélation, il nous donne la bonne vision et nos prières sont exaucées si nous sommes connectés avec Dieu. Amen. Merci encore pour ta grâce, merci de ta présence, la paix que tu mets dans nos cœurs, pour l'exemple d'Élisée qui n'a pas flanché face à l'ennemi envahissant. Nous savons qui derrière ce roi de Syrie, agit, c'est le prince de ce monde, c'est l'ennemi de nos âmes qui essaye aussi d'effrayer les chrétiens, de les environner de ces puissances de ténèbres. Mais nous voulons ouvrir nos yeux spirituels et voir, Seigneur, ton armée, l'armée céleste, les chars de feu, les anges de Dieu qui viennent au secours de tes enfants. Seigneur, nous ne voulons pas regarder aux difficultés seulement, mais voir ta gloire, voir ta puissance. Et nous savons que ceux qui ont tissé un piège sous nos pas, c'est eux-mêmes qui y tomberont parce que tu veilles sur chacun de tes enfants. Oui, dans le nom de Jésus, raccompagne-nous dans ta grâce et bénis le reste de cette soirée. Amen.